change monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est le jour J pour Donald Trump. Dans quelques heures, à midi, heure de Washington, 17h temps universel, le milliardaire, va donc prêter serment pour succéder à Barack Obama et devenir le 45e président des États-Unis. Vous ne manquerez rien de cette investiture avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux et nos invités ici à Paris. Une cérémonie à suivre, évidemment, sur RFI en direct. En attendant, durant les 20 prochaines minutes, eh bien, nous continuons ensemble à essayer de décortiquer à travers vos questions le programme de Donald Trump. Jean-Éric Brana est toujours à mes côtés. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis. Qui veut la peau du Parti républicain? L'incroyable Donald Trump. Voilà un ouvrage à lire que je conseille aux auditeurs. Et puis vous en publiez un ces jours-ci, je crois, qui s'appelle
Make America Great Again, l'Amérique de Donald Trump, chez Privat.
Et on suivra évidemment de près tout ce que Barack Obama fera dans les prochaines heures. Mais surtout ce que fera Donald Trump. On dit déjà qu'il va certainement d'ici la fin de la journée, en tout cas après évidemment son investiture, signer des décrets, c'est possible ?
Ce serait possible, oui, mais j'y crois pas une seconde. Oui. Il va être occupé quand même aujourd'hui, le monsieur. Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il y a ces 35 mots à prononcer qui font de lui le président des États-Unis. Puis ensuite, il y a
35 mots. Qui sont, je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et dans toute la mesure de mes moyens de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis.
Et il va rajouter, help me God.
Que Dieu
me vienne en aide.
Voilà, que Dieu nous vienne en aide.
C'est très important, ça aussi, dans l'imaginaire américain. Et puis ensuite, il y a surtout le grand discours qu'il va prononcer à la nation, dans lequel il va annoncer son programme. Donc réellement, c'est plus de l'incantation ou de la campagne, c'est ce qu'il compte faire, la direction qu'il va suivre pour l'année à venir.
Alors justement, des questions sur le mandat de Donald Trump, nous en avons beaucoup au standard. On accueille Émile qui est à Bruxelles. Bonjour Émile.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue, nous vous écoutons.
D'accord. Il y a quelques jours, le nouveau président américain a donné une interview à deux journaux allemands et britanniques. Dans laquelle il dit que l'OTAN est obsolète. Mettra-t-il fin à cette alliance militaire de plusieurs décennies ?
Alors, l'OTAN obsolète. Obsolète, dit-il, car elle ne s'est pas occupée de terrorisme. Et en même temps, il dit, l'OTAN reste importante à mes yeux. Une fois de plus, j'ai encore du mal à y voir clair dans le programme et la vision de Donald Trump.
Oui, ou alors on peut se dire que cet homme-là ose dire tout haut ce que d'autres n'osent pas dire et qu'ils gardent pour eux ou qu'ils disent vraiment très bas. Car il est vrai que si on regarde l'OTAN aujourd'hui, on a tous un peu cette constatation que c'est effectivement, sinon obsolète, en tout cas un peu vieillot et on se demande à quoi ça sert. C'est une organisation qui a été créée au moment où il y avait deux blocs, l'Est et l'Ouest, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Et c'est vrai que notre ennemi à tous commun, c'est le terrorisme et Daesh en particulier. Donc on se demande pourquoi l'OTAN n'a pas redirigé ses efforts pour lutter contre Daesh, pourquoi les nations du monde ne se sont pas liées pour pouvoir éradiquer ce fléau. C'est ce que dit Donald Trump et cela, évidemment, ça a un écho non seulement aux États-Unis, mais peut-être dans le reste du monde aussi.
Est-ce qu'il y a un écho également aux États-Unis? C'est lorsqu'il dit, nous, Américains, nous n'avons pas à payer pour tous les autres États membres de l'Alliance Atlantique. Nous sommes ceux qui respectons les critères financiers. En tout, il n'y a que 5 pays sur 28 qui respectent donc ces critères financiers, il n'y a pas de raison que nous continuions finalement à dépenser autant d'argent.
C'est ça, tous les pays s'étaient engagés quand même à dépenser 2% de leur PIB pour l'OTAN, ce qui est loin d'être le cas. On a des pays qui atteignent à peine 0,2%, on est très très loin du compte, alors que les Américains prennent en charge quasiment 70% de toutes les dépenses. C'est vrai que pour un Américain, il se dit mais donc ce sont mes impôts qui payent la protection du monde.
Effectivement. Yuba, bonjour, vous êtes à Bamako.
Oui, bonjour Juan, bonne année à vous.
Merci de nous appeler. Vous aussi, vous avez été choqué par les propos de Donald Trump sur l'OTAN, mais surtout sur l'Europe.
Oui, bien sûr. Il y a plusieurs points du discours politique et de la personnalité de Donald Trump qui m'intriguent et qui m'inquiètent souvent, notamment ses relations futures avec l'Europe. Voici un président américain qui affiche, il a envie pressante, de plus en plus pressante, de s'éloigner de l'Europe, en applaudissant par exemple au Brexit. Et en prédisant comme un vœu le fait que d'autres États puissent quitter l'Union européenne. Alors qu'à ce que moi je sache, le premier partenaire économique et politique des États-Unis, c'est bien l'Europe. Donc la question que je voudrais bien poser à M. Jean-Éric Prémat, c'est qu'est-ce que les États-Unis ont à gagner dans un protectionnisme primaire tel qu'annoncé par Trump et qui ont imposé la mondialisation au reste du monde et qui en profitent amplement.
Jean-Éric Prémat, d'abord un mot sur son rapport à l'Europe. C'est vrai qu'il s'est félicité du Brexit, qu'il encourage d'autres pays européens à suivre l'exemple du Royaume-Uni. Il n'aime pas l'Union européenne ?
Je ne sais pas s'il n'aime pas l'Union européenne. En tout cas, il n'en voit pas l'utilité immédiate pour lui. Il s'inscrit dans sa politique étrangère dans quelque chose de radicalement nouveau par rapport à ce qui se fait depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est plus l'internationalisme, ce n'est plus la coopération à part les grandes organisations. C'est le bilatéralisme pour lui défendre avant tout les intérêts des Américains et pas les intérêts, on vient de le dire, l'OTAN, du reste du monde ou de l'Europe ou quoi que ce soit. Alors, une fois qu'on a posé ça, c'est vrai que l'Europe n'est pas très importante à ses yeux. Ce qui est important, c'est d'avoir des contacts avec les pays qui peuvent rapporter des marchés aux Américains. Donc il y a les Anglais d'abord, puisque avec le Brexit, ils sont une porte ouverte sur l'ensemble de l'Europe et c'est l'ami traditionnel des Américains.
Puis il a promis un accord commercial très rapide entre les États-Unis et le Royaume-Uni.
C'est ce qui se fera, puisque c'est à l'intérêt des deux parties. Et le second, c'est l'Allemagne, puisqu'il considère que l'Allemagne est effectivement le moteur de l'Europe. On peut être surpris quand même qu'il ait oublié la France au passage, la cinquième puissance du monde, mais je crois que là, effectivement, il a essayé de jouer la division, comme le disait notre auditeur, et ça a marché.
Ça a marché, et on voit bien que les relations sont déjà électriques. Hein. Angela Merkel lui a répondu, les Européens ont leur destin en main, et François Hollande lui a répliqué, l'Union Européenne n'a pas besoin de conseils extérieurs. L'ambiance promet d'être tendue. Autre question au standard, toujours sur la politique étrangère de Donald Trump. Bonjour Blaise.
Bonjour Juan, bonjour à tous les techniciens de la RFI, la Radio Mondiale.
Merci de vos encouragements et merci pour eux. Nous vous écoutons.
L'élection de Donald Trump a été ponctuée par des révélations laissant supposer une ingérence russe dans les élections américaines. La Russie pourra-t-elle avoir des moyens de pression sur Donald Trump et sur la politique américaine?
Alors, on dit que les Russes ont tout fait, en tout cas, pour élire Donald Trump. Déjà, vous y croyez ou pas, vous, spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Prémat?
Je crois qu'il faut regarder ça avec circonspection. Mais ce que je vois, c'est que la semaine dernière, ou plutôt en début de semaine, Vladimir Poutine a fait une déclaration dans laquelle il a dit « Je n'ai absolument rien sur Donald Trump face à la caméra ». Et on avait vraiment l'impression qu'il était en train de parler à Donald Trump en disant « On s'est bien compris, n'est-ce pas ?»
Donc,
c'est vrai que si on le voit avec cet angle-là, on peut avoir peur. Maintenant,
donc vous pensez que les Russes ont de quoi faire, pour dire les choses trivialement, de quoi faire chanter le futur président américain ?
Non, je ne dirais pas ça. Et je ne suis pas sûr en plus qu'on puisse faire chanter le président américain.
Ouais.
Donc la plupart des décisions, quand même, même si elles se prennent souvent à la Maison-Blanche, doivent être soumises à ratification par le Congrès. Je ne pense pas que Vladimir Poutine ait de quoi faire chanter tous les sénateurs un par un. Donc je suis assez rassuré. Je trouve que cette constitution est bien construite justement pour éviter qu'il y ait des pressions d'un pays étranger sur la nation américaine.
Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés.
C'est ça.
Ouais. Il semble s'apprécier tout de même.
Ouais, il semble en tout cas se courtiser gentiment. C'est Roméo et Juliette, ouais. Hein, donc on va voir si ça se termine aussi mal que dans la pièce de Shakespeare.
Ouais. Mais on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, que les relations entre Obama et Poutine s'étaient dégradées, elles étaient même exécrables. Donald Trump, en se rapprochant de la Russie, qu'a-t-il à gagner au final? Moi, je comprends bien ce que les Russes peuvent gagner en se rapprochant des Américains, notamment concernant le dossier syrien, notamment concernant les sanctions adoptées contre la Russie. Mais les Américains, ils gagnent quoi, eux?
Alors, ils gagnent d'abord l'idée que ce n'est pas quelqu'un de belliqueux et qu'il est capable de tendre la main à son ennemi. Encore une fois, c'est un businessman, c'est un homme d'affaires et qui veut faire des affaires. On est en, je le répète, dans la géoéconomie. Il s'agit de signer des contrats, il ne s'agit pas de se marier ensemble ou d'être d'accord sur tout. Donc il dit, si on n'est pas ennemis, c'est donc qu'on est quelque part des amis, on a l'intention de vivre en bonne intelligence dans le monde. Pour autant, il dit pas qu'il veut être ami avec Vladimir Poutine. Mmh. Il dit des choses, c'est vrai, un peu étonnantes, du genre il est très intelligent ou on va réussir avec lui, mais ça s'arrête là quand même.
9h50 à Paris, Jean-Éric Brana est encore avec nous pendant 10 minutes, il répond à vos questions sur le programme de Donald Trump. Bonjour Hamza.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous êtes à Ouagadougou au Burkina Faso, nous vous écoutons.
Oui, je suis à Ouagadougou. Juan Gomez, j'ai une question concernant Israël. Donald Trump a nommé un ambassadeur pro-colonisation en Israël et a annoncé sa volonté de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce qu'il peut tenir sa promesse?
Ah, peut-il tenir sa promesse? C'est vrai que la communauté internationale déjà est suspendue aux décisions de Donald Trump sur le dossier israélo-palestinien en général, mais surtout déjà sur son souhait, sa volonté de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui de facto d'ailleurs reviendrait à reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, capitale qui n'est pas reconnue comme telle internationalement. Il le fera ou pas? Ou c'est de la provoque?
C'est le dossier explosif, effectivement, du mandat de Donald Trump. Promesse qui a été faite devant l'AIPAC, c'est-à-dire une grande organisation juive aux États-Unis au mois de mars, en pleine campagne. Il s'agissait de ramener le vote juif sur sa candidature. Effectivement, c'est explosif parce que dans la région, ça va être très très mal vécu, ou très très bien vécu, ça dépend dans quel camp vous êtes, bien évidemment. Mais encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a un congrès, que ce congrès va devoir donner son accord à cette décision.
Enfin, il y a une loi aux États-Unis qui date de 1995 et qui stipule qu'il est possible de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Jusqu'à présent, tous les présidents américains depuis 1995 qui se sont succédés à la Maison-Blanche ne l'ont pas appliqué.
C'est ça.
Mais rien n'interdit Donald Trump de l'appliquer.
Rien n'interdit à Donald Trump de l'appliquer, sauf que, encore une fois, ce que je commençais à dire, il a un congrès, que ce congrès, il a une majorité très courte, qu'il a besoin de tous les sénateurs de son camp, et dans son camp, il y a des sénateurs qui sont très, très remonté contre cette idée et très opposé. Donc, à moins de faire exploser sa majorité, ce qu'il peut tenter de faire aussi de passer en force, mais on n'est plus en campagne, on est maintenant dans la réalité, en tout cas à partir de midi, heure de Washington, je crois que ça va être très difficile quand même.
Ouais. Élie d'Abidjan a justement un avis très tranché sur Donald Trump et sur cette question du dossier israélo-palestinien. Bonjour Élie.
Bonjour Juan.
Nous vous écoutons.
Bah, moi, je pense que Donald Trump, son arrivée, va envenimer un peu la situation au Proche-Orient, notamment dans le conflit. Déjà, avec ses prises de position, il faut préciser que Donald Trump, il est contre la solution à deux États. Donc, il est pour la colonisation et il va encourager, en quelque sorte, Netanyahou. Aujourd'hui, Netanyahou, il a besoin que de ça pour foncer. Avec la résolution qu'il y a eu, que Obama a permis, hier, récemment, à l'ONU, je pense que Netanyahou s'est senti un peu abandonné sur ce sujet-là. Il s'est plus ou moins calmé, mais avec l'arrivée de Donald Trump, en plus avec ce qu'il annonce, donc le déplacement de l'ambassade à Jérusalem, c'est sûr que les Palestiniens, ils vont voir de moins en moins de l'espoir de voir naître un jour leur État. Et ça va les retrancher en fait vers la violence parce qu'ils n'auront pas d'autre choix.
Ouais.
C'est ce que je crains plus parce que, et moi ce que je crains le plus aussi, c'est que l'Union européenne quand même pourrait faire une sorte de contrebalance, mais j'ai l'impression que l'Union européenne ne va pas réagir. Va laisser faire. Et après, voilà, on dirait que les Palestiniens, c'est des terroristes. Et puis, il y aura de la violence. Et Israël va encore bombarder Gaza et d'autres territoires.
Donc, vous craignez donc un retour de la violence sous la présidence Trump. Jean-Éric Brana, ce qui est intéressant, c'était d'écouter, d'entendre la semaine dernière, lors des auditions au Sénat, James Mattis, qui a été désigné par Trump pour être à la tête du Pentagone. Un sénateur lui demande quelle est la capitale d'Israël. Il répond la capitale d'Israël où je me rends est Tel Aviv. Donc, c'est intéressant. Et James Davids admet qu'il n'y a pas d'autre voie, d'autre solution de sortie de crise du conflit israélo-palestinien que la solution à deux États. Donc, il se démarque là de Donald Trump.
Oui et non, on est dans le cadre des auditions et ce qu'on voit surtout dans ce processus, c'est que les nommés par Donald Trump, qui sont tous des gens, la plupart d'entre eux sont des gens qui sont sujets à polémique, pour qui la nomination était très difficile, devaient passer cette épreuve en donnant au Congrès ce qu'il attendait. Le Congrès, c'est l'establishment et il fallait avoir une parole un peu on va dire au centre, en tout cas mainstream, qui permet effectivement de ne pas avoir un vote contre, car une ou deux voix suffisent à disqualifier la personne. Donc ils ont répété, encore une fois, ce que le Congrès
avait envie d'entendre,
c'est ce que je disais dans la précédente intervention.
Autre question standard, et on continue à parler de politique internationale. Bonjour Lamine.
Bonjour Anne.
Bienvenue, nous vous écoutons.
En effet, pendant sa campagne électorale, Donald Trump avait fait des déclarations violentes à l'égard de la Chine et de sa monnaie, le yen. À cet effet, je voudrais comprendre quelle sera sa politique économique vis-à-vis de la Chine et quelle est la conséquence de son élection sur les relations chino-américaines.
Alors, c'est vrai qu'il s'était engagé, il avait promis une véritable guerre commerciale contre les Chinois. Il a eu des propos extrêmement durs contre les Chinois durant la campagne. Il les a accusés de voler les emplois des Américains, de voler l'argent des Américains. Vous y croyez, cette guerre commerciale ?
Ah, totalement. Je crois qu'on a là la vraie rupture avec Donald Trump, effectivement, qui a mis fin à cette main tendue depuis Nixon, des États-Unis vers la Chine, et qui a été au détriment, effectivement, des emplois américains, on va dire des emplois dans le monde de façon plus générale. Il s'agit aujourd'hui pour les Américains d'arrêter les Chinois dans leur expansion, à la fois économique, territoriale et humaine. C'est comme ça, en tout cas, qu'ils le vivent. Et je crois qu'effectivement, Donald Trump a désigné le nouvel ennemi de l'Amérique, qui est donc la Chine. Et c'est aussi ce qui explique en partie le rapprochement avec la Russie, puisqu'il faut rééquilibrer un petit peu les forces dans le monde. Donc, on s'allie un peu pour avoir le nouvel ennemi économique.
Oui. Ça veut dire quoi que concrètement, Donald Trump va augmenter les droits de douane, comme il l'a dit à un moment donné, de 45%. Donc, forcément, les produits américains, eux aussi, auront des droits de douane extrêmement élevés en Chine. Pour les consommateurs américains, ce sera forcément un handicap, puisque les produits chinois vendus sur le territoire américain seront plus chers.
Et aller jusqu'au bout, ça veut dire que les produits qu'il y a dans les supermarchés dans lesquels le grand public peut acheter des produits pas chers seront donc remplis de produits beaucoup plus chers. Effectivement, donc c'est l'électorat Donald Trump qui sera puni
évidemment
à la fin. Donc c'est peut-être pas ça la solution. En tout cas, une guerre économique il y aura. Quelle forme elle aura, je n'en sais trop rien pour l'instant. On a effectivement ce type de déclaration. Il faudra voir sur la réalité si c'est ce qui va se passer. Mais c'est vrai que droit de douane, il y aura certainement, puisque c'est promis. Ce qu'il veut, c'est ramener aussi les entreprises américaines aux États-Unis, notamment par le biais des dérégulations et le manque de taxes. Il a promis de ramener, c'est très symbolique, l'iPhone aux États-Unis, puisque vous savez que l'iPhone est fabriqué en Chine actuellement.
Effectivement. Il nous reste 2 minutes, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions, mais ne vous inquiétez pas, on aura le temps encore la semaine prochaine de continuer à parler de Donald Trump. Vous avez suivi Jean-Éric Brana, la campagne électorale, vous vous êtes même rendu sur place aux États-Unis. Des promesses, il y en a eu, certaines plus folles les unes que les autres. Laquelle, pour vous, personnellement, vous fait la plus peur ?
Il n'y a rien qui me fait réellement peur. Il y en a une qui me navre un peu, c'est le mur. C'est vrai que c'est cette mesure symbolique. Je me souviens que au départ, quand le mur a été annoncé, le pape lui-même avait dit quand on est chrétien, on ne construit pas des murs, mais on tend des mains. C'est vrai que mettre un mur, pour moi, c'est toujours un échec, et que je trouve que dans le monde, on construit beaucoup de murs actuellement. Donc voilà, un de plus qui sera quand même très très grand et très très haut et très très fort et très très solide, puisque c'est ce que nous a promis Donald Trump. Tous ces très très, je trouve, sont très très de trop.
Merci beaucoup Jean-Éric Brana, merci d'avoir été avec nous durant une heure pour répondre aux questions des auditeurs. On vous retrouvera d'ailleurs un peu plus tard sur l'antenne d'RFI aux côtés de Caroline Paré, puisque tout au long de la journée, RFI vous permet de vivre en direct l'investiture du Donald Trump, 45e président des États-Unis. La Gambie, nous en parlerons lundi, puisque Yahya Jammeh, le président sortant, a jusqu'à midi pour quitter le pouvoir, faute de quoi la CDAO poursuivra son offensive militaire pour le déloger de son fauteuil. On suivra évidemment de près, heure par heure, l'évolution de la situation sur place avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux, et nous en parlerons évidemment lundi. Claire Hédon, bonjour.
Bonjour Juan.
On vous retrouve dans 10 minutes, comme tous les matins, priorité.